fait généralement remonter les débuts de la construction européenne sous sa forme politique et économique au traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951. Mais ce serait oublier 2 millénaires d'histoire, voire plus. En effet, pour Michel Fauquier, historien et spécialiste de l'histoire religieuse, c'est dès l'époque grecque que se met en place une conscience européenne. Il nous décrypte les moments clés de ces 2500 ans d'histoire.
Le début de ce que nous appelons la conscience européenne se situe au moment d'un affrontement qui a tracé l'équivalent d'une frontière entre ce qu'on appelle et ce qu'on appellera définitivement l'Asie et ce qu'on appelle et ce qu'on appellera définitivement l'Europe. Cet affrontement, c'est ce qu'on appelle les guerres médiques, 5 siècles avant Jésus-Christ, qui est donc l'objet de l'ouvrage d'Hérodote. Là, on a, premier élément, la formation de la frontière. Les Grecs prennent conscience qu'ils ne sont pas comme les Perses qui sont de l'autre côté, qu'ils ne partagent, pour ainsi dire, rien avec eux. Ils ont cette conscience qui va poser, je le pense, l'équivalent d'une frontière, qui va faire naître l'idée d'une frontière, si vous voulez, on peut dire mentale, entre l'Europe d'un côté et l'Asie de l'autre, et qui passe à peu près par les détroits du Bosphore et du Dardanelle, comme encore actuellement. La deuxième étape dans cette grande construction, ça a été d'appuyer à cette frontière mentale une forme. Cette forme, c'est l'Empire romain. La première fois, on voit apparaître sur nos cartes, sous une forme géographique, quelque chose qui s'apparente à l'Europe, c'est évidemment au moment de la construction de l'Empire romain. Et la troisième étape, c'est le moment où cette frontière virtuelle va se remplir d'un contenu. Et ce vrai contenu, c'est incontestablement le christianisme. Alors vous voyez, on peut voir ces trois étapes qui sont quand même extrêmement claires. Une qui se situe 5 siècles avant Jésus-Christ, avec les guerres médiques. Une seconde qui voit l'aboutissement à cette forme au moment de ce qu'on appelle l'édit de Caracalla en 212 après Jésus-Christ. Et cette décision de l'Empire romain, à vrai dire qui est une décision personnelle d'un empereur, Constantin en l'occurrence, de donner un véritable contenu qui va remplir cette forme, qui est le christianisme, et que là, on peut faire dater, si on le veut, disons, de ce qu'on appelle encore l'édit de Milan de 313 après Jésus-Christ.
La chute de l'Empire romain, que l'on fait dater du 5e siècle après Jésus-Christ, aurait pu déstabiliser fortement l'Église. Mais au contraire, c'est en se fondant sur les structures chrétiennes que la société se reconstruit.
L'Empire romain avait mis en place tout ce qu'il fallait pour s'effondrer lui-même. Mais au demeurant, il est effectivement extrêmement frappant de voir que les structures principales du christianisme, que sont un certain nombre de fondations, alors monastiques pas très importantes au moment de l'effondrement romain, mais par la suite si, et surtout des évêchés, vont fonctionner, si vous voulez, un petit peu à la façon d'endroits dans lesquels la mer se serait installée, autour desquels vont s'accrocher, chez ceux qui entretiennent une certaine nostalgie, le souvenir de leur hominité qu'ils espèrent sauver en s'accrochant à ces îlots, et chez lesquels cela va générer un regard différent, un peu un regard de conquête, qui consiste à se dire qu'il faut partir de ces îlots pour recontinentaliser, si j'ose dire, l'Empire romain. Et de fait, ce que nous observons en tant qu'historiens, c'est que cette construction, ce projet porté par les chrétiens, est un projet qui a parfaitement abouti.
En continuant d'avancer dans l'histoire, on rencontre l'époque des moines, avec des ordres qui s'étendent dans toute la chrétienté, et parfois au-delà. Michel Fauquier voit dans cette expansion un lien avec la foi chrétienne.
Aucun moine, quelle qu'ait été l'importance de l'ordre auquel il a appartenu, n'a pensé créer l'Europe. Mais il y a ceci de fascinant. C'est que si nous prenons par exemple la carte cumulée de l'expansion des 2 plus grands ordres monastiques, l'ordre de Cluny qui naît au début du Xe siècle et en 1098, donc la fondation de Cîteaux, eh bien quand on regarde la carte cumulée des fondations de ces 2 ensembles gigantesques, chacun d'eux va grouper au moment de son apogée à peu près 20 et peut-être un tout petit peu plus de 20 000 moines chacun. C'est absolument gigantesque, mais c'est par ailleurs extrêmement frappant, parce que ces cartes cumulées font quasiment apparaître la forme européenne. Quasiment. Il reste cette chose absolument étonnante pour un historien, qui est de constater cette coalescence qu'il y a entre la forme monastique, les lieux des fondations, et la forme européenne. Alors la question qui reste pour partie un mystère, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a manifestement un lien. On peut avancer l'hypothèse que j'indiquais au départ, à savoir que le contenu du projet européen, c'est très certainement le christianisme, et c'est resté le christianisme. Et on n'a mort. Et donc, si vous voulez, l'explication la plus simple, sinon la plus probante, du lien que je relevais.
Une dernière étape importante dans les origines de la conscience européenne est celle de l'échange du savoir, qui se fait à partir des universités. Or, celles-ci sont nées de l'étude de la théologie et s'intéressent principalement à ce domaine du savoir.
Ce qui fait le cœur de la science universitaire pendant très longtemps, et en tout cas à son origine, c'est bien ce projet de la recherche de Dieu, c'est la théologie. Ce projet, qui peut paraître un projet extrêmement aérien, la recherche de Dieu, n'est-ce pas, est un projet qui va générer un mouvement, une sorte de mouvement brownien, un échange extrêmement actif, qui fait que les universités sont très très loin, on retrouve un peu la chose actuellement avec ce qu'on appelle le système Erasmus, sont très très loin d'être des lieux où l'on fait une carrière, au sens où on rentre un jour dans une université, et puis on en sort avec les honneurs, après tant d'années d'enseignement. Loin de là, à l'époque, un maître, lorsqu'il sent des aptitudes chez son étudiant, et qu'il sent surtout qu'il n'est plus capable de le faire progresser, le dirige vers un autre maître avec lequel il est en relation et qui se trouve très fréquemment à l'autre bout de l'Europe. D'où le mouvement brownien auquel je faisais allusion, qui va créer une sorte de brassage de l'intelligence au sein de l'Europe, qui trouve son origine dans un projet ecclésiastique, là encore, qui est l'université, qui a d'ailleurs beaucoup à voir avec le Saint-Siège, qui soutient très fortement ces initiatives. Et là, on a des échanges qui sont, à proprement parler, impressionnants. Pensez au plus célèbre des maîtres du temps, saint Thomas d'Aquin, Aquinas, c'est pas en France. Or, il va être maître de l'université de Paris. Il va par ailleurs enseigner à Toulouse. Il entretient des échanges épistolaires d'échelle quasiment européenne à l'époque, comme on le fera plus tard dans les siècles qui suivent.
Les étapes entre cette époque et le 9 mai 1951 sont encore nombreuses. On trouve la Révolution française, l'établissement de la République dans les divers pays de l'Europe, les deux guerres mondiales. Au cours de cette histoire, comme aujourd'hui encore, c'est bien le contenu de la foi chrétienne, ainsi que ses traductions pratiques, qui ont soutenu la construction de l'Europe. Un engagement que l'Église, aujourd'hui, tente de prolonger.